Électrochoc, le podcast des électrons libres.
Dernière nouvelle de l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question aussi vieille que l'humanité. Y a-t-il une vie après la mort ?
Bonjour Max, bonjour à tous. C'est LA grande question, en effet. Et on va essayer d'y voir plus clair. Mais pas avec des boules de cristal ou des témoignages spectaculaires. On va plutôt en parler avec la rigueur de la science.
Exactement. Et la première chose que la science nous dit, et ça peut surprendre, c'est qu'on ne peut pas prouver qu'il n'y a rien après la mort.
C'est un point crucial. En science, prouver l'inexistence de quelque chose est quasiment impossible. C'est le fameux paradoxe de la théière de Russell. Si je vous dis qu'une minuscule théière en porcelaine orbite autour du Soleil, entre la Terre et Mars, personne ne peut me prouver que j'ai tort. Mais ça ne rend pas mon affirmation crédible pour autant.
C'est une excellente image. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Mais, et c'est le revers de la médaille, la charge de la preuve revient toujours à celui qui affirme quelque chose. Si je dis qu'il y a une théière, c'est à moi de le prouver.
Et c'est là que le bât blesse pour beaucoup de récits sur l'au-delà. On entend souvent dire que la science est limitée, qu'elle ne peut pas appréhender l'invisible, le spirituel. Mais c'est un faux procès. Toute l'histoire de la science, c'est justement l'histoire de la découverte de l'invisible.
Absolument. Les Grecs anciens ont compris que la Terre était ronde sans jamais la voir depuis l'espace. Copernic a placé le Soleil au centre de notre système sans télescope pour le vérifier. Et que dire de la physique quantique ? Personne n'a jamais vu un électron de ses propres yeux, mais on a démontré son existence par des calculs et des expériences indirectes.
La science n'est pas limitée par nos cinq sens. Au contraire, elle cherche constamment à les dépasser avec des instruments et des protocoles. La démarche scientifique, ce n'est pas « je crois ce que je vois », mais plutôt « je crois ce que je peux démontrer de manière reproductible ».
Et c'est là que toutes les prétendues preuves de l'au-delà échouent. Elles ne résistent pas à l'analyse critique. Ce sont souvent des expériences personnelles, très fortes, très émouvantes, mais qui ne sont jamais reproduites dans des conditions de laboratoire contrôlées. Ce sont des histoires, pas des preuves scientifiques.
On a plein d'exemples dans l'histoire des sciences de découvertes extraordinaires qui se sont complètement effondrées dès qu'on a mis en place un protocole un tout petit peu sérieux. On peut penser à l'affaire des rayons N au début du XXe siècle.
Ah oui, une histoire fascinante. Un physicien français, René Blondelot, annonce avoir découvert un nouveau type de rayonnement. Tout le monde applaudit. Un scientifique américain vient le rendre visite et pendant une expérience, dans le noir, il retire discrètement le prisme qui était censé produire ces fameux rayons.
Et les assistants de Blondelot ont continué à voir les rayons et à prendre des mesures. Ça montre à quel point l'envie de croire, l'autosuggestion, peut être puissante. C'était une illusion collective.
On a eu la même chose plus récemment, en 1988, avec la fameuse « mémoire de l'eau ». Un chercheur très respecté publie des résultats incroyables. Mais quand une équipe de contre-expertise, avec un illusionniste dedans, est venue vérifier…
Et qu'ils ont mis en place un protocole en double aveugle, où personne ne savait ce que contenaient les tubes à essai, pouf, l'effet a complètement disparu. Dès qu'on élimine le biais de l'observateur, le phénomène s'évanouit.
C'est un principe fondamental. À affirmation extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. Tordre une cuillère par la pensée à la télévision, c'est extraordinaire.
Comme le faisait Uri Geller dans les années 70, il fascinait tout le monde, jusqu'au jour où il a été invité au Tonight Show de Johnny Carson. L'équipe de l'émission, conseillée par des sceptiques, avait préparé ses propres cuillères et les avait gardées sous clé jusqu'au direct.
Et là, impossible pour lui de les manipuler ou de les fragiliser en coulisses. Résultat, il a passé plus de 20 minutes à l'antenne, en sueur, sans réussir à tordre le moindre bout de métal. Le pouvoir avait disparu face à un protocole un tout petit peu contrôlé.
C'est toujours la même histoire. Notre cerveau est une machine à créer du sens, à voir des schémas partout. On relie des coïncidences et on en fait des causalités. C'est humain, on a envie de croire.
On a vu ça avec des histoires de réincarnation, comme l'affaire Bridie Murphy. Une femme sous hypnose racontait sa vie antérieure en Irlande. Ça semblait incroyable, jusqu'à ce que des journalistes découvrent qu'elle avait simplement grandi en face d'une voisine irlandaise dont elle avait absorbé les souvenirs d'enfance sans s'en rendre compte.
Ou encore les histoires de fantômes dans des châteaux, comme au château de Vaux, en France. On a des photos de formes vaporeuses, des enregistrements de cris. Mais dès que le propriétaire, qui était convaincu de voir le fantôme tous les soirs, a quitté les lieux, le fantôme s'est cessé de se manifester.
Alors, au final, que nous reste-t-il? La science a-t-elle une réponse définitive?
Eh bien, la seule réponse intellectuellement honnête, c'est « nous ne savons pas ». Et c'est une très bonne réponse. La science n'a pas la prétention d'avoir réponse à tout. Elle avance lentement, par hypothèse et réfutation.
On ne peut donc pas prouver qu'il n'y a rien, et pour l'instant, personne n'a pu prouver qu'il y avait quelque chose, selon les critères de la science.
Exactement. Et il est essentiel de faire la distinction. Ce qui relève de la science exige des preuves, de la reproductibilité. Une expérience qui ne marche que pour une seule personne, dans une seule pièce, n'est pas une expérience scientifique. C'est du spectacle.
Et ce qui relève de la croyance, de la foi, appartient au domaine de l'intime. Et les deux ne sont pas incompatibles. On peut être un grand scientifique et avoir des convictions personnelles ou spirituelles.
Tout à fait. L'important, c'est de savoir où s'arrête la conviction personnelle et où commence la preuve. Et dans un monde rempli d'informations et de fausses nouvelles, cette distinction est plus cruciale que jamais.
Ne pas savoir n'est pas un échec. C'est une porte ouverte sur le mystère et sur de futures recherches. Merci Céleste pour cet éclairage passionnant.
Merci à toi Max.
Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.